Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 22 avril 2026. On se retrouve pour l'actu financière macro-géopolitique et on part immédiatement avec le retour des tensions États-Unis-Iran avec un détroit d'Hormuz qui reste ouvert sporadiquement mais très perturbé, induisant le fait que le pétrole, l'énergie, la matière première vraiment du moment qui est surveillée comme le lait sur le feu fait le yo-yo proche de la zone clé et pivot des 100 dollars. Alors un coup on est à 80, 85, 90, on approche les 100, beaucoup de volatilité du côté énergétique, le gaz qui reprend plus 3%. Et tout ceci a pour conséquence directe un impact macro avec l'inflation qui repart à la hausse et un risque important de stagflation avec cette inflation qui va perdurer, qui va persister sans être dans un premier temps une inflation complètement débridée ou galopante, mais on va avoir un ralentissement général économique. Au plus longtemps, cette situation perdure. Le ralentissement se fait ressentir d'un point de vue mondial, mais surtout en Europe et en Angleterre, au Royaume-Uni. La croissance salariale est au plus bas depuis 2020. Consommation affaiblie et surtout la confiance des ménages, c'est très important. Un peu plus au global, les entreprises qui anticipent des licenciements massifs. Donc pour l'instant, on voit que notamment aux États-Unis, l'emploi, etc. se porte plutôt pas mal. Mais du côté européen de la force, eh bien on a une Europe qui est fragilisée avec un sentiment économique qui est fortement dégradé, notamment du côté de l'Allemagne avec le ZEW à moins 17,2. Et comme vous le savez, en Europe, c'est l'Allemagne qui aujourd'hui sert de bon élève quand on regarde un petit peu le baromètre, notamment du côté du DAX. On risque d'avoir cet effet boomerang avec l'explosion des coûts énergétiques, les industries lourdes sous pression et une croissance qui est d'ores et déjà revue à la baisse 0,8% en 2026. Donc autant dire quasiment rien. Dès qu'on s'approche comme ça en dessous du 1%, ça devient assez catastrophique d'un point de vue de la croissance. Côté politique monétaire, Kevin Warch s'est exprimé hier lors d'une allocution. Donc il sera très certainement le successeur de Jérôme Powell à la tête de la Fed. Il insiste fortement sur l'indépendance des banques centrales. Ça ne va pas forcément dans le sens de Donald Trump, une fois de plus, qui voudrait manipuler absolument chaque petit pion sur l'échiquier. Le marché qui surveille les ventes de détail aux US et la trajectoire des taux. Et il ne met pas de côté une potentielle remontée des taux si l'inflation venait à se montrer un peu plus galopante. Le paradoxe à court terme, la tech reste forte malgré le chaos géopolitique. Les marchés résistent grâce au boom de l'IA, des investissements massifs. Amazon a annoncé hier 25 milliards de dollars d'investissement. Tout ceci dans un environnement macro très tendu, guerre, tension, énergétique, incertitude. Les marchés sont dans une phase de décorrélation entre la réalité et la spéculation. Ils anticipent une résolution rapide du conflit ou bien la domination pleine et entière de l'intelligence artificielle qui l'emporterait sur tout le reste. On part du côté de l'analyse technique sans plus tarder avec un crypto total à 2600 milliards sur le pas de tir puisque c'est une grosse résistance pour le coup. On a la moyenne mobile 20 juste au-dessus, le breakout qui est en train de se faire par rapport à la zone clé des 42 de RSI en hebdomadaire. Donc désormais, en tout cas pour le court terme, il y a plus de chances que le marché crypto revoie dans un premier temps les 2900 à 3000 milliards plutôt que de repartir immédiatement à la cave. C'est plutôt positif. Cela se traduit par un BTC qui essaie d'emporter les 78 000 $ ce matin sur lesquels on bataille un petit peu avec une moyenne mobile 20 hebdomadaire qui était à 77 000. On aura un Fibo intermédiaire à 83-84, la moyenne mobile 100 hebdomadaire à 87 700 et la moyenne mobile 50 qui est à 86 267 avec, comme vous le savez, juste au-dessus, la zone clé et psychologique des 100 000 $. Là aussi, on peut observer du côté des oscillateurs le breakout en cours en hebdomadaire de la zone des 44 de RSI et le deuxième histogramme positif du côté du MACD. Le VIX toujours sur son support des 20 points, pas plus, pas moins, mais il n'en faudrait pas beaucoup plus pour que, notamment sur l'UK Oil, on ait de nouveau une alerte. Donc on va observer, bien entendu, jour après jour, ce qui est en train de se dérouler du côté de ce détroit d'Hormuz et on ne sait plus du tout sur quel pied danser. L'US Oil est plus bas, autour de 89 $ l'once. Les taux, qu'ils soient courts ou longs, reculent légèrement. Le DXY dollar américain, donc face à un panier de devises, toujours autour de 98,3, donc relativement affaibli malgré tout depuis le début de cette présidence Trump. Le money supply qui continue en tout cas pour les États-Unis de progresser à la hausse. Et quand on regarde d'un point de vue mondial, on est un petit peu en retrait si on prend vraiment la liquidité globale, bien que là ça soit un indicateur maison, mais on est plutôt sur une phase où on essaie de poser un petit peu les choses. Et la problématique, comme on l'a vu au niveau des informations, ça reste dans tous les cas la consommation, la confiance des ménages. Et tant qu'on est dans ce mood un petit peu défaitiste, guerroyeur, triste quelque part, hein, puisque même si on n'est pas directement impacté, je suppose qu'aujourd'hui, n'importe qui se renseigne un petit peu sur ce qui se passe sur la planète ou qui sont connectés à des réseaux sociaux tels que X, etc., on voit passer un petit peu de tout, mais c'est un climat qui est quand même vachement anxiogène. Donc aujourd'hui, je pense que plus que jamais, c'est quelque chose à prendre en considération pour nous en tant que spéculateurs et surtout regarder en effet si la tech arrive à supplanter, et notamment au travers de l'IA, tout ce qui se déroule d'un point de vue macro qui, lui, dans tous les cas, aura un impact au niveau de l'économie au sens large du terme. Le S&P 500 qui marque un petit temps de pause, donc hier en léger retrait 0,63 à 7064 points. On va voir là aussi si on marque le pas et si le marché finalement revient à la raison, puisque pour le court terme, voilà, on s'est demandé pourquoi depuis 3 semaines ça anticipait autant au niveau de cette hausse. On a compris pourquoi, puisque ça anticipait la réouverture du 2-3 d'Hormuz, mais aujourd'hui on n'est jamais sûr de rien et c'est pas cette administration américaine qui nous permettra d'être sûr de quoi que ce soit. Le Nasdaq, pareil, hier moins 0,42, mais rien d'extraordinaire pour le moment. Du côté des métaux précieux, la moyenne mobile 20 hebdo pour le gold, 4766 $ l'once, tandis que le silver est autour de 78 $, avec pour des objectifs institutionnalisés, banque d'affaires, banque privée, etc. Il vise donc, pour rappel, 90 $ l'once à 1 an pour le silver et environ 5500 $ l'once pour le gold. On en est encore loin, mais pourquoi pas, puisque le gold pour l'instant a l'air de simplement marquer une petite pause. On passe à Ethereum qui lui est proche du combo moyenne mobile 200, moyenne mobile 20 en bleu et vert ici sur l'écran, 2440-2450. On a un break également qui est en train de s'acter autour de la zone de polarité des 43 pour Ethereum en hebdo, pour cette zone RSI, et on a le premier voire deuxième histogramme positif du côté du MACD. Pas plus à se mettre sous la dent pour l'instant du côté des minières ou sociétés liées de près ou de loin à l'industrie. On continue de batailler avec ces fameuses moyennes mobiles 20 ici comme Coinbase autour de 195 $. Ceci étant dit, le fait est qu'on ait eu toute cette réaction et notamment probablement institutionnelle autour de la moyenne mobile 200, en tout cas pour ma part, ça légitime quelque part le fait que Coinbase désormais, Bitcoin au travers des ETF et tout ce qui s'ensuit est désormais pris en compte par cette institutionnalisation du domaine, et c'est exactement les sons de cloche qui en ressortent de ETHCC ou de la Paris Blockchain Week. On est désormais totalement sur de la bancarisation quelque part du domaine. Belle progression de MSCI Inc. aux États-Unis, donc plus 5,40. On est ici sur les vendeurs de pioches et de pelles. On en avait discuté quelques fois sur la chaîne. Est-ce que pour du long terme, ça vaut le coup d'en avoir en portefeuille? Je vous avouerai qu'aujourd'hui, personnellement, j'en ai pas, mais je trouve ça intéressant, tout comme le Nasdaq qui, au long cours, a une progression assez conséquente et assez constante quelque part. Après, voilà, comme d'habitude, ça va être à vous de faire le choix et le tri de ceux que vous souhaitez tout simplement allouer dans vos portefeuilles. Mais je trouve que avoir peut-être de temps en temps comme ça, ou même au niveau des processeurs de paiement, Visa, Mastercard, des fonds de portefeuille comme ça qui, de toute évidence, tant que tout le monde n'utilise pas que la crypto pour les paiements au travers de la planète, auront leur intérêt. Et la bourse traditionnelle, je pense qu'elle n'est pas prête de fermer ses portes. Donc aujourd'hui, perso, j'en ai pas, mais je trouve ça vachement intéressant et très certainement que c'est des actions que je rentrerai pour du long terme par la suite, exactement comme un peu on pourrait traiter des ETF, etc. Du côté français, on a des reculs importants, en tout cas en journalier, sur les actions liées à la défense, notamment un moins 6% pour Thales, sur l'Euronext à 247 €, on était récemment autour de 271, on n'arrive pas encore à sortir de cette box, on est au contact moyenne mobile 20, moyenne mobile 50, le bas de range se trouve entre 208 € et 212-208, où se trouve la moyenne mobile 100, et la moyenne mobile 200 semaines se trouve à 170 € pour Thales. Du côté des altcoins, ça reste très très difficile difficile de s'accrocher à quelques branches que ce soit. J'ai vu que Hyperliquid avait reculé un petit peu, et notamment sur le fait qu'on a les marchés prédictifs petit à petit qui sont en train de se déployer. Et voilà, on va voir ce que ça pourrait donner. Bon, je ne sais pas pourquoi fondamentalement ça aurait un impact négatif sur Hyperliquid. Dans tous les cas, il continue de plutôt pas mal se maintenir autour de $40. Et après, bah, comme d'hab, il y a, on va dire, 5 à 10 gros dossiers vraiment dans la crypto qui sont quelque part dignes d'intérêt. Alors, je parle d'un point de vue spéculatif, puisque d'un point de vue fondamental, tout ce qui va être recherche et développement au cours du temps et justement ce qui pourrait apporter le salut de demain à la blockchain et à la crypto, notamment, pourquoi pas, avec de la recherche qui viendrait être alimentée sur Super Turbo de l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, voilà, quand on regarde les choses dans leur ensemble et surtout quand on n'a pas peur de regarder les choses en face, quelque part, puisque c'est aussi malheureusement la poussière qu'on a trop tendance à mettre sous le tapis pour se dire qu'on n'a pas fait le mauvais choix sur tel ou tel altcoin plutôt que Bitcoin. Enfin voilà, vous connaissez la musique, et derrière, quand on observe les trends, etc., il y a beaucoup de choix qui malheureusement au long terme sont difficilement justifiables. Donc aujourd'hui, essayez plus que jamais de faire attention à vos choix quand vous rechargez quoi que ce soit, et si vous avez un doute, eh bien il vaut mieux se diriger vers des choses solides et éprouvées. Et sur le marché crypto, il n'y a pas grand chose, mis à part Bitcoin en effet, qui soit totalement éprouvé au travers du temps et qui ait permis de ne pas perdre voilà, des 99% de sa valeur et de ne jamais s'en relever de 2 ans en 2 ans, de 4 ans en 4 ans. Malgré ce, comme on peut l'observer sur bon nombre d'alt, que ça soit des Solana, des Chainlink, voilà, des Tao BitTensor qui étaient un petit peu plus en avance, Hyperliquid aussi qui est en avance, BNB qui continue de se tenir bien sur droit sur ses jambes, mais qui est totalement lié à Binance. Donc est-ce qu'aujourd'hui on a envie, premièrement, bah, d'acheter du token de DAO quand on voit ce qui se passe autour de AAV, et est-ce que pour la partie centralisée de la force on a envie d'acheter du BNB ou des choses dans ce style? Ça aussi, ça va être vraiment à la sensibilité de chacun. En tout cas, Chainlink par exemple est en train de revenir sur le haut de son ancien range autour de 9,50 à $10. On a toutes les moyennes mobiles au-dessus du pif et on a un point haut du cycle, donc de ce cycle, décembre 2024, autour de $31, et un ATH du cycle précédent, mai 2021, autour de $52. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, d'un point de vue spéculatif, la personne qui rentre autour de $10 pour Chainlink et qui vise un simple retour autour de $30, ça lui fait un x3, ça fait 210%. Et derrière, si on s'en fie à la mèche extrême ici de février 2026, en gros, on peut mettre un stop à environ moins 25%. Donc on risque un quart de son investissement aujourd'hui du côté de Chainlink pour potentiellement aller chercher un x3. C'est comme ça, en tout cas, en termes de gestion du risque pur et dur, que vous devez réfléchir. Bien entendu, ça ne représente ni un conseil ou une incitation à prendre ce trade en particulier. J'essaie de vous imager en direct, avec les informations comme d'habitude assez fragmentaires qu'on a, comment peuvent se dérouler tout simplement des réflexions avant par la suite d'appuyer potentiellement sur la gâchette, Chainlink faisant partie au long cours, bien entendu, ces dernières années, des incontournables. C'est le king de l'oracle et on a fondamentalement besoin d'oracle du côté de la blockchain. Ça ne peut pas exister aujourd'hui sans, bon, mis à part Bitcoin bien entendu, et encore que les ramifications de Bitcoin du côté de la DeFi, etc., bien que ça soit des wrappers et des Bitcoins impactés, et qu'aujourd'hui on voit que la DeFi a ses limites quelque part, notamment ça n'a pas été traité dans les sujets d'actualité, mais on a Arbitrum qui a gelé 70 millions à peu près en Ether, qui avait été donc envoyé par les pirates de Kelp, c'était le sujet d'il y a quelques jours, où on a 290 millions qui ont été piratés via RSETH, et derrière il y a eu de la mauvaise dette sur AAV, etc. Et c'est encore en cours d'investigation et tout le monde se renvoie la patate chaude, la balle, et aujourd'hui on ne sait pas trop qui va payer quoi, mais même la Ethereum Foundation a mis la main au portefeuille et a envoyé 50 millions en Ether à AAV pour essayer d'éponger. Donc je suppose que tout ceci va trouver un terme communautaire, si c'est le bon mot à poser derrière tout ça, pour essayer de faire en sorte que il n'y ait pas trop de pertes et que si pertes il y a, elles soient un maximum mutualisées pour que tout le monde s'y retrouve, que tout le monde garde confiance dans ce qu'est la finance décentralisée. Et malgré ce, ça laisse se poser pas mal de questions quand on voit un layer 2 comme Arbitrum qui peut friser comme ça en claquant des doigts 70 millions à leur bon vouloir. Il faut qu'on en tire collectivement les leçons, les conséquences et surtout... Quand bien même dans un premier temps, ce qui s'est passé sur AAV récemment et sur Kelp surtout est dramatique, ça a le mérite de permettre à cette industrie d'avancer et peut-être de prendre un petit peu plus conscience et la profondeur de ce qui est en train d'arriver avec les Claude Mythos, etc., qui vont vraiment martyriser littéralement la moindre micro-faille qui existe, qui n'a pas été découverte. Et on va avoir comme ça beaucoup, beaucoup de hacks qui malheureusement verront le jour dans les prochains mois. Au plus, l'intelligence artificielle deviendra de toute évidence de plus en plus intelligente et peut-être agressive aussi dans les attaques qu'elle pourra mener entre de mauvaises mains. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve ce week-end. Ciao, ciao.